Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin.
Un hiver, comme le pays tout entier était recouvert de neige, on envoya un pauvre garçon chercher du bois. Avant même d'en avoir ramassé et d'en avoir chargé sa luge, il était déjà gelé comme une grive. Il se dit alors qu'avant de rentrer à la maison, il allait allumer un petit feu pour se réchauffer. Il écarta la neige et, en tâtant par terre, il trouva une petite clé d'or. Une clé n'est jamais loin d'une serrure, se dit-il. Il commença à gratter de plus en plus profondément. Et, en effet, il découvrit une boîte en fer. Pourvu que la clé puisse l'ouvrir, pensa-t-il. Elle contient certainement des objets de grande valeur. Il chercha le trou de la serrure, mais ne le trouva pas. Il finit toutefois par le découvrir. Mais le trou était si petit que le garçon avait failli ne pas le voir. Il essaya la clé, et, par bonheur, c'était la bonne. Il la fit tourner une fois, et maintenant, nous devons attendre qu'il l'ouvre complètement et qu'il soulève le couvercle. Ce n'est qu'après que nous saurons quel trésor il y a trouvé dans la boîte.
Les clés d'or, ce conte des frères Grimm, occupe une place particulière dans la production habituelle des contes. Et ce n'est pas pour rien que ce conte attrape, comme on nomme le genre, figure en dernière place du recueil Contes de l'enfance et du foyer. Et pourtant, il nous a semblé important de l'aborder avec le docteur Dominique Desmichel et d'en goûter avec vous la saveur très particulière. Bonjour docteur Dominique Desmichel.
Bonjour Simon.
Alors, en effet, ce conte se trouve à la fin d'un recueil, comme s'il synthétisait l'esprit du conte. Existe-t-il déjà un esprit du conte ?
Ben...
Ça serait difficile à définir. Hein.
Si... Oui, si, moi je dirais qu'il y a un esprit du conte, c'est-à-dire, alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit ? Est-ce qu'il faut l'entendre dans le sens du souffle, par exemple ? Ben, je dirais, ben oui, il y a toujours un souffle du conte, hein. C'est-à-dire il y a une présence, il y a une énigme. Alors on va voir dans ce conte en plus que l'énigme, elle est au cœur, du conte. Oui, je crois qu'il y a un esprit, comme il y a un esprit de la forêt, comme il y a un esprit animal, comme il y a un esprit chez l'homme. C'est-à-dire au fond quelque chose qui, sans s'opposer à la matérialité, la transcende. Voilà, il me semble.
Alors, ce conte est très ambitieux, hein, parce que là, voilà, on va le reprendre bien sûr ligne après ligne, mais il veut quand même dire que les contes sont un véritable trésor et qu'on n'a jamais fini qu'on n'a jamais fini de s'y plonger, puis on n'a jamais fini de s'émerveiller. Peut-être pour ceux qui se trouvent à la fin du recueil d'ailleurs, et ben maintenant mon recueil est fini, mais les contes ils sont là, à vous de continuer à les faire vivre.
Oui.
C'est très ambitieux, hein, comme. Mais ceci dit, les contes, effectivement, traversent les millénaires pour arriver jusqu'à nous. certainement pas intact, mais en gardant une saveur de leurs origines, ça c'est certain.
Oui, il faut bien se rappeler hein, qu'il y a deux périodes pour les contes, une période autour de Louis XIV, on va dire, et une période qui est en gros le XIXe, donc 150 ans d'écart entre Perrault et les frères Grimm, mais il y a probablement une dynamique qui est proche dans les deux cas. Ouais.
Alors, eh bien, je vous propose, docteur Desmichel, de nous lancer et de prendre ligne après ligne, peut-être même mot après mot, parce que les mots sont rares dans ce court conte, eh bien, les éléments qui vont nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Eh bien, ça commence en hiver, dans un pays entièrement recouvert de neige. Eh bien là, nous avons déjà l'hiver. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? L'hiver, c'est la période où on se raconte des histoires aussi ?
Oui, ce qui est toujours important, en effet, dans le conte, ce sont les prémices. C'est-à-dire, au départ, il y a une situation, hein, comme quand dans un film, quand on va au cinéma, on sait bien qu'il y a une petite histoire au début pour nous dire, on vous plante le décor, et puis c'est à partir de ce décor qui va se dérouler l'action. Donc ici, on est en hiver, on a l'impression que c'est quand même, c'est pas l'hiver au coin du feu, c'est pas l'hiver tranquille, c'est l'hiver difficile. En ce moment, en tout cas au moment où nous enregistrons là, on est aussi au cœur de l'hiver, c'est un petit peu difficile. On sait bien que la naissance du Christ a été placée au moment du solstice, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais essentiellement parce qu'il y a la fin de la nuit et le jour qui va réapparaître. Donc il y a quand même quelque chose autour d'une forme de matérialité rude de l'hiver, avec premièrement il fait froid et deuxièmement il fait noir. Et puis, dans le sens psychique, on peut parler aussi d'une période hivernale au cours d'une vie, hein, parce que cette période a été difficile, elle a été marquée par le malheur, et je crois qu'on va retrouver ça ici. En tout cas, là, le pays tout entier était recouvert de neige. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu glaçant, et on a l'impression qu'il n'y a pas un seul endroit où on peut rejoindre la Terre.
Alors, Vous me l'avez appris à travers ces émissions sur les contes, la symbolique des couleurs est importante et le blanc, on le retrouve souvent, et ben là on le retrouve avec la neige.
Oui.
Alors le blanc, on l'a dans Blanche-Neige, on l'a dans énormément de contes. Hein.
Oui.
Alors quelles sont les couleurs qui reviennent le plus ? Le blanc, le rouge, le noir,
voilà, le blanc,
l'or,
le rouge et
l'or,
le noir.
L'or aussi, qu'on peut retrouver dans ce conte-là.
Oui. Le blanc renvoie à quelque chose d'immaculé et d'une sorte de vide, hein, c'est-à-dire il y a une sorte d'attente dans le blanc. Le rouge renvoie le plus souvent au sang, enfin il y aurait plein de choses à dire, hein, les gouttes de sang, les premières règles, enfin des éléments comme ça symboliques, en tout cas autour de la vie. Et puis le noir renvoie le plus souvent à la nuit, à la mort, ou aussi à l'inconscient. Hein. Donc là aussi, il y a une sorte de potentialité. Mais en effet, dans ces trois couleurs, qui étaient très très fondamentales au Moyen-Âge, hein, ces couleurs, hein, Michel Pastoureau a montré ça très très bien, combien ces trois couleurs avaient une vraie connotation symbolique, et surtout qu'elles parlaient à tout le monde. Tout le monde savait bien de quoi en parler. Il y avait une sorte d'inconscient ou de savoir, pas d'inconscient, de savoir collectif autour de ces trois couleurs.
Alors, je reste sur mon hiver et puis ce pays entièrement recouvert de neige. On est quasiment au niveau de l'abstraction, là, carré blanc sur fond blanc. Est-ce que c'est le but recherché par les frères Grimm pour on était sur une page blanche qui se tournait et puis une histoire va s'écrire sur cette page blanche.
Oui, moi je trouve que votre image est bonne. Enfin, je la reçois comme vous le dites. Elle me paraît très juste. C'est-à-dire dans quelque chose où on est comme dans une sorte d'attente, il y a quelque chose qui va surgir. Ouais, comme une écriture, on pourrait dire, oui, je suis d'accord avec vous.
Alors, le personnage arrive, ce sera l'unique personnage de cette histoire. C'est un pauvre garçon qui va chercher du bois.
Oui. Alors, là, il y a deux choses, puisqu'il y a un personnage et au fond une rupture, ou une double rupture. D'une part, cette neige, elle n'est pas inhabitée, puisqu'il y a ce petit garçon. Deuxièmement, ce petit garçon appartient à un collectif, puisqu'on l'a envoyé, donc il est investi d'une mission. On sait bien que dans la majorité des contes, le personnage principal a une mission. On se rappelle du petit poussé qui a pour fonction d'essayer de rétablir une famille, hein, pour que ça fonctionne mieux. Et puis, il y a une finalité particulière, qui est d'aller chercher du bois. Le bois, c'est fait pour faire du feu, et le feu, on pourrait dire, c'est aussi du côté du rouge, c'est-à-dire ça s'oppose au noir-blanc qui serait du côté ou du vide pour le blanc, ou de la mort pour le noir.
Oui, donc nous avons les deux éléments de notre déséquilibre propre à tous les contes, la neige et le feu, et ce personnage au centre qui va aller de l'un à l'autre, et en tout cas tenter de retrouver un équilibre.
Oui, et puis ce qui est vraiment intéressant, c'est juste après, peut-être vous pouvez relire la première petite phrase, je trouve, qui est tout à fait intéressante.
La première phrase,
oui. Oui, juste après, là, vous voyez, avant même d'en avoir ramassé, d'en avoir chargé sa luge. Hein? C'est étonnant, ça, parce que on a l'impression que lui, il part pour une mission, et puis que, voilà, il sait ce qu'il doit faire, trouver du bois, le ramasser, le mettre sur sa luge, et puis le ramener, le rapporter à la maison.
Et avant même, donc, il est totalement gelé, comme une grive.
Ouais, ouais.
Alors, on a ce personnage qu'on va retrouver dans beaucoup de contes, c'est-à-dire un personnage faible, a priori, qui n'a rien pour lui, qui a, je pense, au Petit Poucé ou Petit Chaperon Rouge, tous ces personnages qui n'ont aucune force, a priori, mais qui vont, justement, par... alors, par quoi, justement? Par quoi vont-ils, en règle générale, ces personnages faibles, par quoi vont-ils triompher des forces obscures?
Moi, ma lecture, mais je rappelle à nos auditeurs que vous m'avez donné le texte juste quelques minutes avant l'émission, l'enregistrement. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est... Peut-être vous pouvez relire la phrase d'après, parce qu'il me semble que c'est ça qui articule.
Alors, je vais reprendre les deux phrases. Avant même d'en avoir ramassé, d'en avoir chargé sa luge, du bois donc, il était déjà gelé comme une grive. Il se dit alors qu'avant de rentrer à la maison, il allait allumer un petit feu pour se réchauffer.
Alors, vous voyez, déjà, il y a une énigme là. Parce qu'on se dit, du coup, on ne comprend rien. Évidemment, on se dit, oui, c'est possible et on ne s'arrête pas au mot. Mais là, il nous est dit quoi? Avant même d'en avoir ramassé. Donc, il n'a pas de bois. Et juste après, il dit, il n'y a pas de bois, mais il va allumer un petit feu pour se réchauffer. Donc, on a envie de se dire, il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Dans une certaine mesure, il est parti collectivement chercher du bois pour le ramener à la maison. C'est pas possible parce qu'il est complètement envahi au fond par la neige. Il est contaminé par la neige, il est contaminé par le froid collectif. Et lui, il dit « je vais allumer un petit feu ». Et alors, qu'est-ce qu'il fait pour allumer le petit feu? C'est ça qui est assez hallucinant après.
Et il écarta la neige et en tâtonnant par terre, il trouva une petite clé d'or.
Donc vous voyez, pour moi, là, il allume le feu. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, on n'est plus dans une extériorité où il faut qu'il ramène du bois. On est ramené à une intériorité. Et lui, il ne va pas être dans une forme de déni de la neige, par exemple. Mais il va creuser la neige pour retrouver la terre. Donc il me semble que lui, quand le texte dit il va allumer un petit feu pour se réchauffer, le texte dit il va creuser à l'intérieur de la neige pour retrouver la terre, c'est-à-dire pour retrouver quelque chose d'un feu intérieur. Le conte a l'air de dire en tout cas ici que le trajet intérieur est le préalable à toute autre chose.
Alors en effet, il retrouve la terre, ça c'est effectivement un élément primordial. La terre, c'est quoi? C'est le côté maternel, docteur Dominique Michel?
Oui, ça peut être le côté maternel, ça peut être le côté de la source. C'est-à-dire, c'est un maternel qu'il ne faut pas entendre simplement dans le sens de la maman historique, qui est évidemment très importante, il n'y a que elle qui porte l'enfant, mais dans un maternel plus global, c'est-à-dire d'un maternel phylogénétique, ontogénétique, c'est-à-dire ce sont nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et on peut remonter jusqu'aux origines de la vie ou même aux origines de l'univers, vous voyez, c'est-à-dire c'est au fond s'inscrire, il me semble, là, dans une filiation.
Alors, il trouve une clé. Alors, une clé que nous avons vue dans un conte précédemment, La Belle aux clés d'or. Là, c'est encore une histoire de clé. Qu'est-ce que cela symbolise? Beaucoup de choses, la clé de la connaissance, la clé des songes, la clé des chants.
Oui. Une clé toute seule, ça sert strictement à rien. Ça peut être joli. Il y a des très belles clés, toutes petites, minuscules. Il y a des énormes clés de château. J'ai écouté le rêve d'une patiente hier, dans lequel, enfin hier soir, oui, exactement, dans lequel il y avait une grosse clé de château. Voilà, donc c'est aussi un élément de rêve. La clé, c'est ce qui permet l'accès à. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui existe, qui est clos, qui le plus souvent est contenu à l'intérieur du rêveur, ou qui est contenu à l'intérieur de chaque auditeur, l'auditeur du conte, mais il ne peut pas y accéder tant qu'il n'a pas la clé.
Oui, et clé égale serrure, c'est exactement le raisonnement que notre personnage a.
Tout à fait, tout à fait. Alors ça c'est quand même assez fabuleux, hein, parce qu'il dit...
Une clé n'est jamais loin d'une serrure.
Voilà.
C'est tout à fait exact, c'est ce que vous
Ouais.
venez de dire.
Voilà. C'est-à-dire, il a une espèce de confiance dans la vie. Parce il pourrait se dire, ben, j'ai la clé, mais j'ai pas la serrure. À quoi ça sert? Donc il prend la clé et puis il la jette, au fond. Tandis que lui, il se dit, tiens, j'ai une démarche, j'ai une potentialité, j'ai une ouverture quelque part. Eh ben, il va bien falloir que je trouve l'autre. Hein, parce qu'il y a un vrai lien là. Évidemment, on va entendre dans une perspective certes un peu classique et parfois qu'on peut reprocher peut-être à une lecture trop freudienne de la psychanalyse, mais on a une lecture ici sexuée, vous voyez, hein, entre une clé et une serrure. C'est-à-dire, il y a l'idée d'une rencontre.
Et notre personnage commence à gratter de plus en plus profondément.
Oui.
Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on continue à creuser, eh ben,
Oui.
on finit par trouver.
Oui, c'est-à-dire d'abord on trouve la démarche, on trouve la potentialité, mais la potentialité toute seule, ça donne rien, quoi.
Il faut y aller,
Hein?
quoi. Il faut se retrousser les manches à un moment
Voilà,
donné.
voilà. Et il faut creuser, souvent creuser à l'intérieur de soi-même pour essayer de découvrir une sorte de ben, ses propres trésors, hein?
Alors nous avions l'équation clé égale serrure et maintenant nous avons clé égale serrure égale boîte en fer.
Oui. Alors une petite boîte en fer. Moi, j'y verrais bien aussi une sorte de contenant, hein, de contenant maternel, hein, comme si au fond la petite boîte en fer blanc était une sorte de représentation en miniature de la terre qu'il y a derrière. Vous voyez, hein? Alors, la terre, c'est quand même ce qui porte fruit, et nous sommes tous issus de la terre, hein. Nous savons bien qu'à l'intérieur de nous-mêmes, la majorité, enfin pas la majorité, la totalité des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote pour dire les principaux, mais aussi tous les autres, silicium, etc. Ça a appartenu à un animal, ça a appartenu à du végétal et ça a été dans la terre, ça a été dans un arbre. Hein. Nous avons à l'intérieur de nous-mêmes tous ces atomes. Hein. Donc nous sommes les fruits de la terre, des fruits un peu plus élaborés, peut-être que l'animal ou le végétal. Mais avec probablement une même communauté phylogénétique, en tout cas.
Eh bien, l'équation se poursuit, hein, clé, serrure, boîte, et puis boîte dans la tête de ce garçon égale trésor.
Oui. Ben oui.
Il y a des trésors sous nos pieds, enfouis dans la terre. On marche dessus, probablement on ne les voit pas. Les trésors sont là depuis toujours, et notre rôle est simplement de gratter le sol, et puis avec suffisamment de confiance, comme vous le précisiez tout à l'heure, pour trouver des clés qui ouvriront des serrures, qui ouvriront des boîtes et qui contiendront des trésors.
Dans l'idée du feu, je pense que du feu du début,
Oui.
on peut l'entendre dans une dimension très utilitaire, hein, c'est-à-dire quand il fait très froid, on fait le feu. Mais aussi le feu, c'est quand même souvent une symbolique autour de l'amour, hein, les feux de l'amour, hein, voilà, le feu brûlant de la passion, par exemple. Et donc, il me semble ici que là, il y a quelque chose de l'ordre. C'est comme si lui, dans ce froid-là, il était tout seul, isolé. Qu'il n'y avait pas de place pour une vraie rencontre, et qu'au fond, là, il allait découvrir la possibilité d'allumer un petit feu à l'intérieur de lui-même, je dirais le feu de la relation, puisque ce qui est en jeu ici profondément, dans toute la symbolique du conte, c'est la relation. Hein. S'il y a une boîte en fer, mais qu'elle est fermée, qu'on n'a pas la clé, ça vaut rien. Si on a une clé, même si elle est en or, mais qu'il n'y a pas de serrure, eh ben ça sert à rien. Donc il me semble, vous voyez, tout est doublement autour de la rencontre. La première rencontre, c'est que ce personnage rencontre son désir, c'est-à-dire malgré qu'il soit complètement givré, c'est-à-dire identifié à la neige, il dit à l'intérieur de moi-même, il y a quelque chose qui peut bouger. et une autre rencontre, qui est la rencontre entre la clé et la serrure.
Alors le comte a cette petite précision, cette petite phrase que je vais vous lire. Il chercha le trou de la serrure, mais ne le trouva pas. Il finit toutefois par le découvrir, mais le trou était si petit que le garçon avait failli ne pas le voir. Alors c'est un petit détail très, très évocateur.
Oui,
il faut continuer à creuser, tout à l'heure il creusait, il faut continuer à chercher, rien n'est gagné d'avance.
C'est-à-dire que, à la fois, il y a la clé qui est petite, donc c'est normal qu'il y ait un petit trou, mais qu'au fond, on peut avoir et la clé et l'objet, et de temps en temps ne pas trouver l'articulation entre les deux.
Oui. Hein.
Voilà, c'est-à-dire, de temps en temps... Voilà, ce matin, j'ai reçu à la consultation quelqu'un qu'on voit depuis un certain temps, qui est une femme relativement jeune, qui a vraiment des potentialités. Et au fond, elle a des potentialités sur le plan psychique ou sur le plan spirituel, même si elle a une souffrance physique. Et puis, de l'autre, elle a, comme elle disait d'ailleurs ce matin, on la voyait avec l'infirmière, les gens lui disent, ça rejoint d'autres comptes, j'y pensais pas là, les gens lui disent, mais tu as de l'or dans les mains, tu as de l'or dans les mains. Et elle ne le savait pas. Donc vous voyez, il me semble que là, elle avait cette possibilité-là, c'est-à-dire elle avait la clé à l'intérieur d'elle-même, elle avait l'objet, c'est-à-dire la possibilité, elle, de faire des très beaux objets, semble-t-il, en tout cas c'est ce que lui disait tout son entourage, mais pour l'instant, elle n'a pas la possibilité de faire la jonction.
Alors nous arrivons à la conclusion déjà du conte. Il essaya la clé et par bonheur, c'était la bonne.
Oui.
Il la fit tourner une fois et maintenant, nous devons attendre qu'il ouvre complètement et qu'il soulève le couvercle. Ce n'est qu'après que nous saurons quel trésor il a trouvé dans la boîte.
Oui, ça me faisait penser à ce slogan des années 68, je crois, sous les pavés la plage, vous voyez, hein, c'est-à-dire à partir du moment... où on est dans un processus de recherche en particulier intérieur, mais aussi ça se déploie dans les relations, dans nos recherches, dans notre curiosité. Si on déploie cette énergie, alors on peut trouver ce trésor. Donc il me semble c'est que ce conte-là, ou ce rêve, il est un rêve ou un conte qui magnifie le désir. C'est le désir à l'état pur, c'est-à-dire on ne s'occupe pas de l'objet du désir, on ne s'occupe pas de la finalité du désir, on ne s'occupe pas de l'arrivée du chemin, on ne s'occupe pas de ce qu'on va découvrir, on s'occupe juste du désir.
Est-ce que cela pourrait-il signifier également que ce trésor qu'il trouve, ce désir ou cette vérité qu'il a au fond de lui, ne concerne que lui-même et finalement ne concerne pas son entourage ?
À partir du moment où lui, il va avoir trouvé son bois, hein, parce que l'important c'est qu'il puisse trouver du bois pour nourrir son feu intérieur, j'aurais tendance à penser que collectivement ensuite ça va réchauffer le pays tout entier, hein, puisqu'au début on est dans le pays tout entier, hein, ça va réchauffer les cœurs des autres après avoir réchauffé le sien.
Eh bien, en quelques minutes pour conclure, Dominique Desmichel, ce conte-là, vous le mettriez au début ou à la fin d'un recueil pour contes ? Il ouvre aussi plein de perspectives.
Voilà, voilà. Bah oui. Moi, je le mettrais bien assez au début pour dire. Vous savez, vous allez lire des contes après. Vous allez lire les contes de Grimm. Ayez la curiosité de cet homme, de ce petit homme, de ce pauvre garçon. Si à l'intérieur de vous-même vous avez ce désir, vous allez trouver votre propre trésor. C'est ça qui est le plus important.
Merci, docteur Dominique Desmichel. À très bientôt.
Merci, Simon. Au revoir. Thank you.
Radio Grand Ciel, 107 à Châteaudun.
You have broken me all the way down, down upon my knees. And you have broken me all the way now. You'll be the last you'll see. Some fight you gave when I pushed you away from me. And in the morning when you turn in, I'll be far to see. And you have broken thank you.